Et c'est le journal de Charlotte Piret, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Du jamais vu dans la grande distribution, amende record réclamée par le gouvernement contre le groupe Leclerc, 117 millions d'euros pour pratiques commerciales abusives. Comme une sensation de déjà subi, la canicule se réinstalle en France et il n'y a pas qu'ici qu'on a chaud à New York aussi où nous irons dans ce journal. Dans l'actualité du jour également, le bras de fer entre un agriculteur charentais et Monsanto qui n'en finit pas. Ça se joue désormais devant la Cour de cassation. Des centaines de supporters algériens toujours bloqués au Caire, deux jours après la victoire des Fennecs en Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Blake et Mortimer, mordus de technologie, exposition exceptionnelle au Musée des Arts et Métiers.
Dans un quart d'heure, nous recevons le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau.
France Inter.
Une amende record en vue dans la grande distribution.
Chez Leclerc, il va peut-être falloir payer très très cher, 117 300 000 euros réclamés par le gouvernement français à l'encontre du numéro 1 de la grande distribution pour pratiques commerciales abusives. Le groupe est ainsi soupçonné d'enfreindre la loi française via sa centrale d'achat belge, Sarah Lemoine.
Les faits remontent à début 2018 lors des négociations commerciales annuelles. Un certain nombre de fournisseurs, dont Danone et Pepsi, alertent la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils affirment être victimes de pratiques abusives de la part de la centrale d'achat belge de Leclerc qui n'est pas soumise aux droits français. Celle-ci leur impose par exemple de baisser leurs prix sans aucune contrepartie. Ceux qui refusent de jouer le jeu sont déréférencés des magasins français. Des faits confirmés par l'enquête de la DGCCRF selon laquelle 39,1 millions d'euros ont été indûment perçus. Vendredi, le gouvernement a signé Leclerc en justice et demandé au tribunal de commerce de Paris d'infliger une amende record, 117,3 millions d'euros, au numéro 1 de la distribution. Il faut mettre fin à ces pratiques dangereuses qui risquent de déstabiliser toute la filière, explique l'entourage de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Les règles doivent être les mêmes pour tous.
7h32, de fortes chaleurs en vue dans tout le pays, Charlotte.
C'est reparti pour les douches froides, les draps au congélateur, les litres d'eau fraîche et le ventilateur à plein régime. Reparti pour le système D, les astuces qu'on s'échange pour souffrir le moins possible de la chaleur. Vous l'avez compris, la canicule fait son retour sur l'Hexagone. Déjà 21 départements du sud-ouest au centre-est placés en vigilance orange par Météo France. Les hommes ont chaud, la terre a soif, la sécheresse s'étend également dans tout le pays avec des restrictions d'eau en vigueur dans 73 départements. La terre a soif, les bêtes ont faim. Le gouvernement vient d'accorder aux éleveurs une avance d'un milliard d'euros sur les aides européennes ainsi que l'autorisation dans 33 départements d'exploiter les jachères pour nourrir les troupeaux. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir chaud. Aux États-Unis également, des plaines du Midwest à la côte atlantique, les trois quarts du pays viennent d'essuyer une vague caniculaire, 150 millions de personnes en sueur et New York qui s'est transformée en véritable fournaise, Loïc Loury.
38 degrés à l'ombre et bien plus en ressenti à cause de l'humidité. New York a été accablé de chaleur tout le week-end. Natacha, pour autant, n'est pas restée enfermée avec ses enfants.
Tellement chaud, la chaleur atteint des sommets, mais je sors les enfants, vous savez, pour qu'ils se mouillent. On va à la piscine, à la plage et puis on s'hydrate. Il faut boire beaucoup d'eau.
La ville avait ouvert des centaines de points de rafraîchissement, mais à Brooklyn, ce sont les bouches d'incendie déboulonnées qui avaient les faveurs des habitants. George, lui, n'a pas le temps de se mouiller. Il travaille pour le service des parcs et ça lui va très bien.
Parce que je porte une veste, j'aime transpirer et puis je bois des boissons énergisantes. Quand je rentre, je prends du magnésium. Je peux travailler dans ces conditions. Et quand vous êtes adulte, vous faites ce que vous avez à faire.
Un épisode de canicule heureusement très court qui rappelle toutefois à Rosé que ces fortes chaleurs vont bientôt devenir la norme. Il serait bon, dit-il, que ce message parvienne jusqu'à la Maison Blanche.
C'est un problème qui doit être soumis au président Trump. Cet idiot, il ne croit pas au changement climatique. Le premier président à ne pas y croire. C'est terrible et le monde entier le sait.
Et après la chaleur, la côte est s'attend à des orages et à de fortes pluies avec le risque d'inondation qui va avec. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et face à la canicule, difficile de ne pas prendre conscience des risques climatiques.
Et si nos élus l'oubliaient, une adolescente suédoise est là pour le leur rappeler. La jeune Greta Thunberg poursuit sa tournée française. Le prix Liberté reçu à Caen hier, l'Assemblée nationale demain. Invitée à s'exprimer devant l'hémicycle par Mathieu Orphelin, bras droit de Nicolas Hulot. Une initiative dénoncée à corps et à cri par certains élus Les Républicains ou du Rassemblement National qui refusent de siéger, mais soutenus par 162 députés sensibles donc à la cause écolo, alors que les élus verts, eux, ont rarement été si peu nombreux, Laurence Perron.
Greta Thunberg le dira peut-être en français cette fois.
I want you to panic.
Je veux que vous paniquiez.
I want you to panic.
Alors oui, officiellement, il se trouve au moins 162 députés rassemblés dans ce collectif transpartisan pour le climat, accélérons. Mais en réalité, la situation des écologistes pur jus n'a jamais été aussi faible au Parlement. Ils étaient un groupe de 18 en 2012, avec des personnalités au Verbeux, aux Cécile Duflot ou Noël Mamère pour ne citer qu'eux. Depuis 2017, l'écologiste est une espèce en voie de disparition. Plus de groupes, des personnalités éclatées entre les différents partis. Barbara Pompili, la députée verte de la Somme, a complètement disparu des radars depuis qu'elle a rejoint le parti de La République En Marche, le parti présidentiel qui avait réussi son OPA sur la plupart des anciens d'Europe Écologie Les Verts, les a finalement fait fuir. On en retrouve dans le groupe dissident Liberté et Territoire. Mathieu Orphelin, le bras droit de Nicolas Hulot, a lui claqué la porte et est aujourd'hui une sorte de groupe écologiste à lui tout seul. Pas étonnant qu'on lui doive l'organisation de la venue de la jeune Suédoise, qui, si on en croit ses récentes interviews, ne devrait pas épargner ses parlementaires qui s'apprêtent à ratifier, le même jour, un traité de libre-échange, le CETA, pas exactement écolo-certifié.
Le CETA dénoncé justement par Nicolas Hulot dans une lettre ouverte aux députés, c'est une information de nos confrères de France Info. L'ancien ministre de l'écologie s'oppose à la ratification de cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ayez le courage de dire non, lance-t-il, face à ce texte qui, selon lui, ne présente pas suffisamment de garanties sur les OGM, les farines animales ou les risques climatiques. Justement.
Nicolas Hulot qui s'en prend aussi au poids des lobbies.
Des lobbies comme Bayer Monsanto par exemple, géant agrochimique qui a saisi la Cour de cassation dans le bras de fer qui l'oppose à Paul François, céréalier charentais de 54 ans, reconnu victime à 3 reprises par la justice française, gravement intoxiqué par des vapeurs de l'Asso, désherbant de Monsanto aujourd'hui interdit. 12 ans que dure cette bataille judiciaire. Alors, si l'agriculteur ne se dit pas inquiet de ce nouveau recours devant la plus haute juridiction française, il avoue néanmoins sa grande lassitude.
Ce recours devant la Cour de cassation, c'est presque un baroud d'honneur parce que la Cour de cassation s'est déjà prononcée, donc c'est pour gagner du temps. Donc là, vraiment, si j'étais vraiment tout seul, je laisserais tout tomber parce que moralement, c'est épuisant, ils ne lâcheront jamais rien. Alors, je suis pas surpris non plus que Bayer fasse cette procédure parce que Bayer continue de fabriquer ce produit qui est interdit en Europe, interdit aux États-Unis depuis 1985 et le danger de ce produit a été mis en avant pendant la procédure. On veut gagner du temps pour m'épuiser et en plus Bayer qui disait nous sommes pas comme Monsanto, bien si, ils sont exactement comme Monsanto, ils sont prêts pour gagner de l'argent à vendre un produit dangereux. Voilà, ils n'ont pas de scrupules à le commercialiser. C'est plus qu'épuisant, c'est 12 ans de procédure, gagné à 3 reprises, la cassation qui donne un avis et la cour d'appel qui suit la cour de cassation. Je me dis que après la cour de cassation, qu'est-ce qu'ils vont tenter ? Qui vont pas aller devant une juridiction européenne, c'est complètement fou. Je vais continuer, mais je dis bien, je le fais pour les autres, hein, pas pour moi.
Paul François au micro d'Emeline Ferry. C'était son dernier week-end en tant que première ministre. Theresa May s'apprête à passer le flambeau, dernier jour de vote au sein du Parti conservateur. Aujourd'hui, pour désigner son successeur, et c'est l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui devrait, en toute logique, s'installer au 10 Downing Street. Le futur premier ministre britannique qui devra faire face à 2 dossiers épineux, le Brexit bien sûr, mais aussi les relations pour le moins tendues avec l'Iran après la capture d'un tanker britannique vendredi soir, toujours détenu. Officiellement pour non-respect du code maritime international, officieusement pour ce qui ressemble plutôt à une riposte à l'arraisonnement le 4 juillet dernier d'un navire soupçonné de livrer du pétrole en Syrie au large de Gibraltar. Des scènes de liesse aux scènes d'émeutes, il n'y a qu'un pas et on n'en est pas loin au Caire où des centaines de supporters algériens sont bloqués depuis 2 jours, venus encourager l'équipe des Fennecs qui a remporté samedi la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont fait partie des 15 000 Algériens à faire le déplacement. 28 avions avaient même été affrétés spécialement par le gouvernement. Oui, mais voilà, le retour était bien moins bien organisé que l'aller. Résultat, plus aucune place dans les vols à destination de l'Algérie, des supporters excédés et les premiers accrochages hier. Au Caire, le reporter de Martin Roux.
Ralem Abdelhamed pensait rentrer directement après la finale et célébrer la victoire au pays, mais l'humeur n'est désormais plus à la fête.
Fatigué, oui, un peu énervé, un peu stressé. Ça fait 2 jours. On n'a pas dormi, c'est ça l'organisation ? Touring Algérie. Ils nous ont amenés ici, mais le retour, c'est une catastrophe.
Pour Aguilas Nouéli, comme la majorité de ses supporters, le budget est serré. Impossible donc de quitter le terminal de l'aéroport.
Ici, c'est pas la même chose, c'est très cher. Une nuit de l'hôtel, ça a 100 euros. Tu peux pas rester prendre dans notre vol. À notre vol, ça, si tu rajoutes une nuit, ça contient 100 euros et tout. Au total, c'est beaucoup d'argent.
Missoum Badal El Amal, algérienne installée au Caire depuis 10 ans, distribue des bouteilles d'eau et des sandwichs.
C'est plus fort que moi. Mon cœur est algérien malgré que je vis ici en Égypte. C'est mes frères. Il faut que je les aide.
La foule est agitée mais loin d'être violente. À quelques mètres pourtant, des patrouilles en tenue anti-émeute se tiennent prêtes à intervenir. À l'extérieur, 8 fourgons blindés de police campent devant l'aéroport. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
En Ukraine, coup double pour celui qui, il y a quelques mois encore, faisait ses débuts en politique. Le président Volodymyr Zelensky, ancienne vedette de la télévision, voit son parti remporter largement les élections législatives, près de 44% des voix. Pas assez toutefois pour gouverner seul. Le parti pro-occidental, qui a notamment fait de la campagne sur la lutte contre la corruption et la fin de la lutte avec les séparatistes pro-russes, devra s'allier avec l'un des quatre autres mouvements qui ont décroché leur ticket pour le Parlement.
France Inter, 7h40, Charlotte Piret, quand la bande dessinée se veut prémonitoire pour la science.
Et vous nous le rappeliez il y a quelques minutes à peine, Frédéric, avec Hergé et son expédition sur la Lune. On connaît moins, en revanche, la justesse technologique et scientifique de Blake et Mortimer, mais une exposition exceptionnelle au Musée des Arts et Métiers à Paris rend hommage à l'univers d'Edgar P. Jacobs au travers de planches exposées pour la première fois. Jacqueline Petrose.
C'est une plongée dans l'antre de Jacobs. Pas de coïncidence si la chaudière de type Stirling, le radioscope explorateur ou la lampe triode entrent en résonance avec les planches du piège diabolique de SOS Météor de la marque jaune. Jacobs ne laissait rien au hasard. Son anticipation est basée sur les recherches et la documentation. Sa création est alors libre, au point qu'il en arrive à une prescience surprenante, comme pour l'Espadon. Éric Dubois, co-commissaire de l'exposition.
Ce modèle de turbogénérateur Espadon est produit en 1946 à la demande de l'armée de l'air par la firme Hispano-Suiza. La première planche du secret de l'Espadon est publiée dans le premier numéro du journal de Tintin le 26 septembre 1946. L'Espadon de Jacobs semble bien pouvoir avoir inspiré cet avion réel, et c'est entre autres le premier avion français à avoir franchi le mur du son début des années 50.
D'immenses reproductions, 120 planches originales et des trésors.
Des calques polychromes, des calques de travail richement documentés, toutes les remarques marginales, les petites annotations. Jacobs n'hésite pas à découper, rescotcher, recoller, démonter ces planches. Toute cette vie en fait marginale à l'œuvre et que le visiteur n'a jamais vu.
Des objets spécialement restaurés et inédits, des dessins magistraux de Jacobs, Blake et Mortimer entrent au musée avec une exposition réellement captivante.
Scientifiction, une exposition à découvrir au Musée des Arts et Métiers à Paris jusqu'en janvier 2020.
Bon, on a tout le temps pour y aller et retrouver Blake et Mortimer.